La première.
Le contact humain, on sent quelqu'un.
Je savais pas où me mettre, qui je suis dans tout ça.
Tout le monde crée son chemin.
Mais c'est ce besoin d'exceller.
J'ai cherché évidemment le sage.
Je me sens plutôt un citoyen du monde que plutôt un citoyen d'un pays.
Est-ce que c'est ça ma vie?
J'ai découvert la vie. Tout le monde a une histoire.
Bonjour, bienvenue à tout le monde à une histoire. Aujourd'hui, celle de Claire Ruet. Claire, elle est licenciée en communication. Elle a collaboré à différentes associations d'éducation permanente, des ONG aussi. Et elle est une fervente adepte des tables d'écriture. Elle fréquente celle de la bibliothèque de Marche. Elle a reçu divers prix pour ses écrits. Claire Ruet a fait paraître récemment un récit de vie dans lequel elle tisse les origines de sa famille et celles de son mari camerounais. Trois enfants sont nés de leur union. Le livre s'appelle « Blanc foncé ». C'est un titre énigmatique, vous en conviendrez. Un titre qui lui a été soufflé par l'un de ses enfants métis.
C'est une fois ma fille qui est rentrée de l'école et elle m'a dit « Les autres enfants disent que je suis noire. » Moi, je ne suis pas noire, je suis blanc foncé. Et c'est ça qui a donné l'idée du titre. Parce qu'en fait, c'est ça, les gens voient plutôt la différence. Ils sont frappés, ils voient la couleur et ils ne voient pas bon, que c'est ma fille, que moi je suis blanche, qu'elle vit ici depuis qu'elle est née, que son grand-père a fait la guerre de 40, a été prisonnier, qu'elle a des origines du Condro, du Pays d'Herve. On voit plutôt la différence et il y a pas mal de gens qui sont comme ça, que ce soit des migrants qui ont des enfants de la deuxième génération qui ont toujours vécu ici, mais par leur couleur, par leurs cheveux, ils sont repérables. Et donc, moi, je voulais qu'on voit plutôt les ressemblances.
Et vous aviez, vous, en tête, cette différence quand vous regardez vos enfants?
Non, moi, je les vois comme mes enfants. Je les vois, comme toute mère regarde son enfant, est inquiète quand il est malade, est contente quand il fait un beau dessin. Voilà.
L'attrait d'ailleurs, je dirais, parce qu'on sent beaucoup chez vous cet intérêt hein, pour ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe autrement, ça vient d'où à votre avis?
Ben, ça vient de loin, je vais dire. Déjà quand j'étais étudiante à l'IEX, j'avais voyagé jusqu'au Pérou, donc j'aimais voyager, j'aimais rencontrer des gens de cultures différentes, je pense, parce que c'est riche d'être confrontée à d'autres façons de vivre. Voilà. Donc ça n'est pas neuf. J'ai été en Afrique bien avant de connaître mon mari. J'étais en Asie. J'ai été aussi 3 mois au Québec en stage après mes études. Donc j'étais confrontée à différentes cultures. Oui.
Et tout ça n'est pas paradoxal avec aussi cette nécessité pour vous de comprendre les racines. Vous êtes quelqu'un de très ancré.
Je suis quelqu'un de la terre. Donc, quelqu'un de très ancré dans mes racines. Et je pense que l'un n'est pas inconciliable avec l'autre. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient. Et parfois, le fait aussi d'être confronté à d'autres cultures permet d'encore mieux apprécier ce qui est bien dans notre propre culture. Je trouve, justement, pour avoir été un petit peu au Québec, où là, c'est hyper individualiste. Bon, l'Afrique, parfois, c'est très fort le groupe. Et l'Europe, c'est un petit peu l'équilibre entre les deux. On a le soleil, on a la pluie, on a le froid, on a la chaleur. On est très bien ici.
Pour vous, Claire, c'est une enfance plutôt campagnarde?
C'est-à-dire que mes parents, comme les parents de mon mari d'ailleurs, je pense qu'on a, c'est encore une des ressemblances, viennent de la terre, mes grands-parents étaient agriculteurs, fermiers comme on disait à l'époque, tant du côté de mon père que du côté de ma mère, que même mon deuxième père. Du côté de mon mari, c'est la même chose. C'est la génération donc de nos parents qui est une génération de changement, parce que la société changeait aussi. Hein, le nombre d'agriculteurs est en diminution, donc c'est un petit peu le reflet d'évolution de la société.
Alors on le comprend bien ici, peut-être simplement parce qu'on l'a vu et observé plus souvent, hein, ce changement autour d'une génération. Dans le pays de votre mari, là c'est beaucoup plus inconnu pour nous. Alors ça a changé en quoi en fait?
Eh bien, le père de mon mari est parti pour chercher du travail en ville parce que, bon, il ne voulait plus continuer la vie de paysan, il ne voulait pas ça pour sa femme. C'est quand même une vie très dure, avec peu de moyens pour se soigner, et il est parti. Et voilà, il a travaillé d'abord comme coupeur de canne, et puis progressivement, il est monté en responsabilité pour devenir le chef des cultures. Donc c'était quand même quelqu'un de haut placé, ouais, je vais dire, mais il a commencé, ce qu'on raconte dans le livre, en suçant un bâton de canne pour une semaine.
Je lançais des pierres dans le calme plein. Je n'avais rien à faire que des ronds du rivage. Car pour la vie entière, je le savais déjà, sans connaître ni ton nom.
Innocent sur la première avec les cailloux. Tout le monde a une histoire avec Claire Ruet aujourd'hui qui nous raconte son parcours et celui de son mari venu d'ailleurs, du Cameroun en l'occurrence. Alors je vous le disais, elle tisse les différentes racines de ces différentes familles. Maïla Gay par exemple est la mère de Nadjanji, le mari de Claire. Elle a accouché en l'absence de son époux qui était parti chercher au loin du travail. Nadjanji, cela veut dire celui qui aime la viande.
Quand c'est le premier fils, c'est son cas, ce n'est jamais de tout le père qui donne le nom. Ça doit être toujours une autre personne qui donne le nom. Et là, bon, en plus, le père était parti, donc il n'aurait pas su donner le nom. On ne donne pas le nom tout de suite aussi. On attend que l'enfant ait un mois, enfin plus ou moins, qu'il se porte bien en tout cas, qu'on soit sûr. Apparemment, ça attire les mauvais esprits que de lui donner un nom trop vite.
Alors pour Nadjanji, c'est aussi la disparition de sa mère. Bon, alors lui, c'est un peu plus, lorsqu'il est un peu plus âgé, il n'est pas là. Lorsque sa mère décède, il est ici en Belgique, il est à vos côtés. Et vous allez vous reconstituer une cérémonie de veille, au fond,
Oui. C'est important, je crois, quelle que soit la culture, qu'il y ait des rites au moment de la mort. Je pense qu'on n'est pas... C'est ce qui fait le propre de l'homme, c'est d'avoir des rituels qui permettent de faire les passages du deuil et que ce passage ne se fait pas seul. Et là, je pense que l'Afrique a beaucoup à nous apprendre parce qu'ici, il y a des personnes où on n'annonce même pas le décès, qui décèdent, où il y a 3 personnes, voire même personne pour la cérémonie d'incinération. Alors qu'en Afrique, le deuil est l'occasion de grandes rencontres et même parfois de réjouissances, puisque C'est ça qui est paradoxal. Mon beau-père a rencontré ma belle-mère lors d'un deuil. On danse, on boit. Ça n'enlève pas la tristesse et la souffrance de la personne qui est morte, mais c'est l'occasion de resserrer les liens de la communauté.
Cet intérêt que vous avez pour les cultures différentes ou les cultures autres, ça pallie un manque, vous pensez, chez vous ?
Non, je ne sais pas. Ça vient peut-être aussi d'une ouverture qu'on m'a donnée, puisque mes parents eux-mêmes ont déjà voyagé. Surtout mon deuxième père qui est allé, comme il faisait partie des mouvements d'éducation permanente en milieu rural de façon internationale, il a voyagé au Cameroun, au Brésil. Ils ont invité des personnes de cultures différentes. Bon, quand j'étais petite, il y avait une Chilienne qui est venue un moment après le coup d'État comme fille au père. Donc on a été baignés tout petits dans des cultures autres, dans l'accueil de la différence.
Alors vos parents se sont rencontrés lorsqu'ils étaient jeunes, alors que leur destinée a priori était de ne pas se rencontrer, puisque votre mère se destinait plutôt à Dieu, à la religion.
Oui, ben voilà, elle a rencontré l'amour, elle a changé d'avis, elle s'est mariée deux fois, elle a eu cinq enfants.
Votre père décède, vous avez 3-4 ans. Mm-hmm. Vous allez avoir un deuxième père. Vous dites, je suis bipère. On peut être la fille de deux pères.
Oui, ça pour moi, c'est vraiment très important. Oui, on peut être la fille de deux pères comme on peut être l'enfant de deux pays. Je pense, il y a celui qui m'a donné les gènes et toute la famille qui va avec lui, mes grands-parents, les cousins, les oncles, etc. Et puis, il y a celui qui m'a éduquée, donc depuis l'âge de 6-7 ans. Et donc, c'est celui qui est grand-père de mes enfants maintenant.
Éloi, l'artisan, et Alfred, l'artiste, dites-vous dans ce récit.
Oui.
Un père qui était, Alfred, donc, qui était artiste, mais qui était aussi quelqu'un, c'était un scientifique aussi, mm-hmm. C'était un chercheur, et qui avait des dons, en tout cas des prédispositions pour la radiesthésie.
Oui, il était sourcier, en tout cas, il savait chercher l'eau.
Ça, ce sont des choses qui vous ont intéressé aussi, j'imagine, quand on est, encore que vous étiez très très petite, mais ça doit être très intriguant, ça.
Mais je ne l'ai pas vu faire, mais c'est vrai que ça m'a intriguée, c'est peut-être aussi le parallèle entre toutes ces choses qui peuvent paraître difficiles à comprendre de façon très rationnelle et qu'on retrouve très fort aussi en Afrique avec la sorcellerie et la façon dont on explique la mort ou la guérison.
Standing in the courtyard of a dream that's not your own. Flashes of silver and saffron, wind off the ocean floor. You can call on me.
Call on me.
Cause I haven't moved.
Haven't moved.
Since the last time you
pulled yourself through.
You can call on me. I
haven't strayed
since the last time you found your own way. Spinning off into the thunder, trying to outrun mankind's hunger, with blood and soil on your knees. Over those country roads, those ghettos, staggering through war zones now. Look at all those fires you could never.